Donc, je vais commencer par présenter un peu la procédure de recrutement, puisque c'est ça le sujet, l'objet central. Si j'ai... on reviendra ensuite peut-être sur l'aspect pédagogie dans la discussion. Mais je ne vais pas poser complètement les problèmes maintenant, mais je vais surtout présenter la procédure. Alors, la procédure de qualification, si vous voulez, une fois la thèse est faite, les personnes, les étudiants doctorants, donc qui sont devenus maintenant post-doc, enfin, qui sont en train, ils veulent aller vers un poste de maître de conférence des universités ou du muséum, eh bien, doivent être qualifiés, doivent passer par une procédure qui les qualifie, c'est-à-dire qui vérifie qu'ils correspondent bien aux critères pour être maître de conférence. Donc c'est bien un objectif pour recruter à l'université. Alors, ce sont les sections du CNU qui sont chargées de cette qualification. Donc, chaque année, il y a une session par discipline. C'est-à-dire que chaque discipline a une section du CNU. Alors, les premières, alors ça va de 1 à 74, je crois. Il doit y avoir de l'ordre de 70 sections du CNU parce qu'il y a des trous. Il y a des endroits, il y a des moments où on passe de 65 à 70, de mémoire, je ne sais pas. Mais disons qu'en gros, on doit avoir 70 sections, peut-être un peu moins. Donc on a, par exemple, les mathématiques appliquées, les mathématiques théoriques. Je n'ai pas en tête de tous les titres, mais si vous vous donnez quelques exemples, il y a la mienne, qui est l'histoire épistémologie des sciences et des techniques. Il y a philosophie, qui est la 17e, il y a sociologie. Voilà, donc chaque discipline universitaire a une section CNU qui est constituée de 24 titulaires, qui sont des maîtres de conférence ou des professeurs. Il y a moitié maître de conférence, moitié professeur d'université, et qui sont choisis par rapport à leur... il faut qu'il y ait une répartition géographique sur l'ensemble du territoire, et que ça couvre l'ensemble des sous-disciplines ou des champs de la discipline. Enfin, bon, on ne peut pas discuter, on ne va pas développer le concept de discipline, mais c'est un des problèmes. Mais voilà, donc le doctorant qui voudrait être, par exemple, philosophe, eh bien, il veut mettre de conférence en philosophie à l'université, il va déposer son dossier auprès de la 17e section. Donc la 17e section va recevoir son dossier et deux rapporteurs dans la section, mais c'est comme ça pour toutes les sections. Il y a des différences, j'en profite pour le dire, c'est qu'il y a quand même des différences de fonctionnement entre les sections. Mais c'est-à-dire que le droit ne fonctionne pas exactement comme la philo, comme la socio, etc. Mais néanmoins, il y a des points communs que je suis en train de vous présenter. Donc, deux rapporteurs étudient le dossier, et il y a chaque année une période qui dure... là, j'y étais toute la semaine, qui dure. Moi, pour ma section, ça a commencé mercredi, ça s'est terminé hier. Mais il y a, on est en informatique, ça doit durer peut-être 2 semaines, parce qu'il y a beaucoup plus de dossiers. Donc, les deux rapporteurs présentent les dossiers et on évalue plusieurs choses. On observe, d'abord, on voit qui est cette personne, parce que c'est important de savoir qui elle est, où elle est. Par exemple, si c'est... un exemple tout bête, si c'est une femme qui a eu 2 enfants, ça t'as une information dans les 5 dernières années, c'est une information à avoir pour voir pourquoi elle est en retard ou pas en retard. Il y a des choses comme ça. Donc il y a la présentation personnelle qui permet de mieux comprendre la personne, qui peut aider à moduler l'évaluation. Ou si quelqu'un était malade ou d'autres raisons. La deuxième chose que l'on présente, c'est en effet la thèse. De quel était le sujet de la thèse, qu'est-ce qui est sorti de cette thèse, que pensait le jury, qui était le jury, parce que ça c'est une chose auquel on ne pense pas, mais c'est important de vérifier que le jury correspond bien au thème de la thèse et correspond bien à la section dans laquelle le dossier est déposé. On reviendra là-dessus, mais c'est un des points importants qui explique la qualification. Ensuite, on présente les activités d'enseignement, s'il y en a. S'il n'y en a pas, alors là, ça dépend beaucoup des sections. Il y a des sections qui sont relativement souples sur ce point-là. D'autres sont assez sévères. Pour la mienne, on est assez souple, c'est-à-dire on n'en tient pas compte si la thèse est suffisante. Si la thèse est suffisante, si on considère que la personne a fait une très bonne thèse et qu'elle est tout à fait dans les critères, le fait qu'il n'ait pas d'enseignement ne compte pas. Par contre, c'est pareil pour les publications, je parlerai après. Mais par contre, si la thèse n'est pas terrible ou elle est un peu juste, on va voir les autres éléments pour faire basculer le dossier plutôt dans un sens ou dans l'autre. On tiendra compte plus à ce moment-là. Mais ça, c'est ma section. Il y a des sections où c'est rédhibitoire de ne pas avoir donné d'enseignement. Deuxième, en autre chose qu'on évalue, c'est bien sûr l'activité recherche. Donc ce n'est pas simplement la thèse, c'est aussi les publications. C'est aussi les communications dans des congrès, dans des séminaires, enfin un certain nombre de choses. Dans certaines disciplines, ça peut être aussi le dépôt de brevets. Hein. Ça peut être très divers. Ça peut être aussi la participation à des réflexions sur les normes. On a eu ce genre de cas dans certaines sections où des personnes qui déposaient un dossier avaient une activité importante dans de discussion avec des responsables du ministère ou des députés ou des choses comme ça, des commissions où on dit avec des représentants aussi de l'entreprise, où on des commissions où les gens discutent des normes industrielles ou autres. Donc là, je vous donne cet exemple-là pour vous montrer que c'est très divers. Ça peut être très divers. Et donc dans je ne sais plus quelle section c'était. Eh bien, c'est un élément qui est pris en compte. Bon, la présentation de la personne, sa thèse, ses activités d'enseignement, ses activités de recherche. Et ensuite, une évaluation générale qui est faite par le rapporteur. Mais je tiens à préciser que le rapporteur doit obligatoirement, il est demandé, je crois que c'est quasiment obligatoire, mais je ne suis pas certain, mais chez nous c'est le cas, doit obligatoirement conclure par un oui ou un non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit peut-être, si cela, c'est oui, c'est non. Qu'il tranche. Ouais, je crois que c'est quasiment systématiquement qu'il est demandé que la réponse soit claire. Mais ça n'a aucune, si vous voulez, on lui demande ça, mais ça n'a aucune conséquence. Enfin, c'est pas cela qui va déterminer que la personne est qualifiée ou pas. C'est à partir de ces deux rapports, l'ensemble des membres de cette section, par rapport à une discipline, discute sur le dossier. Alors comment ça se passe en pratique? Si vous avez deux rapporteurs qui disent excellent, pas de problème aucun, en général, on demande à un rapporteur de présenter la personne, le dossier, et puis ça, souvent même on ne vote pas parce qu'on dit bon ok, on le qualifie. C'est bien sûr les dossiers difficiles. Déjà, quand il y a deux rapporteurs qui disent, c'est totalement hors champ, ça ne correspond absolument pas à notre discipline, là aussi ça va assez vite. Donc c'est par exemple, on présente en philosophie quelqu'un qui présente c'est souvent des erreurs, hein, où la personne ne comprend pas comment le CNU fonctionne. Mais ça arrive de voir des choses étonnantes. Donc quelqu'un qui est en biologie moléculaire, qui dépose en philo par exemple. Bon. Et bien ça va très vite aussi. Hein. On a deux rapporteurs qui disent totalement hors champ, il s'est trompé. Bon, là. Mais il y a d'autres, les dossiers les plus difficiles, c'est justement, ce sont bons. Il y a aussi le dossier où la personne est vraiment très mauvaise. Hein. La thèse est avec un très mauvais... résultat du jury, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais donc là aussi ça peut aller assez vite. Les difficultés, c'est les dossiers où c'est pas vraiment correct, ça correspond pas vraiment, mais on discute. Alors là, on discute longuement, et notamment quand un rapporteur dit oui et l'autre rapporteur dit non. Là, c'est là que ça nous fait perdre beaucoup de temps parce que on a parfois des centaines de dossiers, hein, mais on va jusqu'à 20h le soir si c'est nécessaire, mais on travaille vraiment à fond pour vraiment prendre une décision. Parfois c'est douloureux parce qu'on a du mal, mais in fine on vote. Quand vraiment on n'arrive pas à discuter, hein, et quand vraiment il y a deux parties de la section qui ne sont pas en accord, eh bien on vote. Bon. Alors ça c'est la première étape. Donc une fois que la personne est qualifiée, elle a le droit de postuler un poste qui s'ouvrirait dans une université. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas qualifié, qui a une thèse, ce n'est pas suffisant pour pouvoir postuler un poste de maître de conf qui serait présenté dans une université. Donc, mais une fois qualifié, il peut se présenter pour répondre à une offre de poste. Et alors là, la procédure, le nom a changé plusieurs fois, je crois qu'on en est au comité de sélection aujourd'hui, hein, je crois que c'est ça. Il y a 3 ans ça a changé, donc c'est un comité de sélection. Alors, il y a un certain nombre de règles. Par exemple, il faut qu'il y ait dans le comité de sélection, et ça, c'est une très bonne chose, c'était à la demande de la CNU, qu'il y ait la moitié de gens extérieurs à l'université. Donc, je crois que le minimum, c'est 8, hein, de mémoire. Voilà, il y a un certain nombre de règles à respecter. Et donc, les candidats qui sont intéressés par le poste qui est offert, donc je précise quand même que ces personnes du comité de sélection, c'est des gens qui sont spécialisés normalement dans le champ du poste, hein, bien sûr. Mais c'est pas toujours comme ça, hein, donc je précise. Donc les candidats envoient les dossiers, le comité de sélection reçoit un grand nombre, donc il fait une première réunion dans laquelle il sélectionne un petit nombre. Alors ça dépend là aussi un peu des disciplines, mais généralement ça peut varier entre 5 et je dirais une quinzaine maximum, c'est à peu près cet ordre de grandeur, qui sont à ce moment-là convoqués. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième réunion du comité de section. La première réunion du comité de section, c'est pour choisir un certain nombre, donc je vous dis entre 5 et 15, je dirais, candidats. Et ensuite, c'est 15 jours après en général, il y a une réunion où on reçoit les étudiants, pas les étudiants, les doctorants. Les doctorants ont quelques minutes pour présenter leur dossier, présenter pourquoi ils veulent entrer dans l'université, présenter ce qu'ils veulent faire, comment ils se voient dans l'université, etc. Bon, là, on peut discuter. Moi, je trouve que... Là, j'aurais des choses à dire. Je trouve qu'il y a d'autres pays où ça fonctionne pas tout à fait pareil. Je trouve que c'est un peu trop court, la manière dont on fonctionne, même si aujourd'hui, dans les règles, dans les nouveaux textes, il est demandé de trouver de nouvelles formules. Une des formules, c'est par exemple que le candidat présente un cours, fasse un cours devant le comité de sélection. Mais pour l'instant, c'est pas l'habitude en France. Et c'est généralement, comme je vous dis, c'est-à-dire un quart d'heure chacun. Et à la suite de ça, le comité de sélection décide de classer, hein, entre 1, 2, 3, 4, 5. Et en général, c'est 1, 2, 3. Et le résultat est envoyé au conseil scientifique et au conseil d'administration de l'université, et qui peut très bien accepter ou refuser. Mais si le président, et parce que c'est lui le président de l'université qui est quand même le principal décideur, si le président, maintenant ça a été ajouté dans les textes de loi, s'il refuse, il doit le justifier. Avant, il pouvait refuser sans justifier. Donc voilà. Bon, avant 2009, le comité de sélection, enfin son ancêtre, on ne pouvait pas changer sa décision. Maintenant, le CS, le CA, là, la procédure exacte, le président peut décider de casser la décision du comité de sélection. Bon, voilà. Donc là, j'ai présenté les choses rapidement. Je pense avoir rien oublié. Mais pour ensuite discuter des pour et des contre, des différents éléments, j'aurai aussi, bien sûr, mon point de vue. Mais voilà, pour commencer, ça.
Très bien, merci en tout cas pour cette présentation, j'ai l'impression très claire, justement aussi, voilà, de toutes les différentes étapes et les différents rôles des différents acteurs, c'est intéressant en tant qu'étudiant, de mieux connaître aussi la problématique.